VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, les soldats mutins qui réclament des primes non payées poursuivent leur mouvement, aussi bien à Bouaké qu'à Abidjan. Un mécontentement traduit par des tirs nourris ce lundi dans la capitale économique ivoirienne. La situation y est si tendue que la BAD, la Banque africaine de développement, a demandé à ses employés sur place de rester chez eux et de ne pas bouger. Plusieurs entreprises ont aussi demandé à leur personnel de rester à la maison, selon l'AFP. Les mutins réclament depuis vendredi les reliquats des primes promises par le gouvernement ivoirien après les mutineries de janvier qui ont ébranlé le pays. À l'époque, ils avaient réclamé 12 millions de francs CFA de primes pour chacun d'entre eux. Les mutins ont obtenu le versement dès janvier de 5 millions et ils exigent les 7 millions restants payable par tranche à partir de ce mois de mai. Le point avec notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tonkara.
Au sein de la population, les avis sont partagés sur ces mutineries.
Si elle est tire, c'est le maçon qui envoie tout cela. Parce que le pouvoir en place ment. Depuis dès le départ, ils ont menti. Le maçon est là, ça continue. On nous a fait croire que oui, ils se sont entendus, ils se sont retirés. Mais d'où vient les tirs?
Mon impression, c'est que le président de la République trouve intérêt d'entente avec nos frères qui ont pris les armes. Pour que la situation se calme et que la vie continue et que les choses avancent et que les Ivoiriens soient encore en paix.
La classe politique a elle aussi réagi à ces nouveaux bruits des bois. Pascal Afingessan, président du FPI, le Front populaire ivoirien, demande la mise en place d'un gouvernement d'union nationale.
Les événements actuels ne viennent confirmer la nécessité d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement-là a montré ses limites. Il a échoué à reformer l'armée et à assurer la sécurité des Ivoiriens. Il a échoué sur le plan économique, il a échoué sur le plan social. Il ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire.
Joël Nguessan, porte-parole du RDR, le Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir. Condamne cette nouvelle mutinerie.
Trop, c'est trop. Et je peux vous dire que les Ivoiriens en ont vraiment marre. Nous encourageons le président de la République à être ferme dans sa position, à ne céder à aucun chantage.
Quant au chef d'état-major de l'armée, il a brandi la menace de sanctions disciplinaires sévères à l'encontre des mutins. Des mutins qui ont fait fi de cette mise en garde en poursuivant leur mouvement de revendication à travers plusieurs villes du pays. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Au Mali, 3 attaques et une vingtaine de morts du côté de l'armée malienne et de ses alliés. Tel est le bilan de 2 semaines d'attaques attribuées à la nouvelle alliance que dirige le Malien Iyad Ag Ali. Les militaires maliens, avec un total de 22 morts à Gourma, Raous, Nampala et Al-Mousrat, sont donc les plus grandes cibles de ces attaques, nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
C'est une unification de mouvements terroristes autour de Iyad Ag Ali qui a permis de voir la mise en place de cette alliance composée de Amadou Koufa du Mali, Ibrahim Malam Diko du Burkina Faso et d'autres terroristes. Leurs cibles, les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger, sans oublier leurs alliés. Dr Lamine Sandi Aïdara, sociologue.
C'est des gens qui ont compris que le terrain a changé et qu'il faille aussi changer les modes d'opération. Je crois que l'armée malienne doit s'adapter en fonction de leur méthode. Cela est dû au fait qu'il y a Dacombi qui n'a aucune porte de sortie et qu'il était obligé, il sera obligé effectivement de trouver un accord de tous les mouvements pour pouvoir faire face, pas seulement à l'armée malienne, face à la communauté internationale, parce que c'est ça. Et de la manière dont ils ont occupé le Nord, qu'est-ce qui ne prouve pas qu'ils puissent rebondir encore avec beaucoup de stratégies pour pouvoir nous empêcher de vivre tranquille.
Cette nouvelle alliance de groupes terroristes fait peur aux Maliens. Certains pensent qu'il faut négocier avec eux. À l'image de Modibo Fofana, journaliste.
Cette alliance ne m'a pas surpris. Je pense qu'avec cette alliance encore, qui va s'étendre même à l'extérieur, ça va nous nuire davantage parce qu'associer Yad au processus de dialogue est devenu logique. En réalité, les vrais maîtres sur le terrain, c'est Yad. On a cru à la CIMA et aux autres groupes armés en signant un accord avec eux, mais nous nous sommes rendus compte que la situation encore s'est empirée. Et la situation du terrain nous impose à aller avec Yad.
Négocier avec Iyad Ag Ali n'est pas de l'avis de Bamako, qui est préoccupé par la mise en place de la force commune du G5 Sahel pour venir à bout des terroristes. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
Nous avançons très sérieusement et assez rapidement pour la concrétisation de ce projet. Et vous savez que le 13 avril dernier, l'Union africaine, à travers le Conseil des pays de sécurité, a donné un mandat à autoriser le déploiement de cette force. Nous sommes en contact maintenant avec les Nations Unies pour avoir un mandat mandat pour pouvoir le réaliser. Le gap que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements de ces unités terroristes entre nos pays. Et je crois que ça constitue une menace. Et nous avons aussi beaucoup de zones dans nos États qui échappent, notamment dans le nord du Mali, à l'autorité de l'État. Et que ces deux facteurs combinés constituent aujourd'hui des sources d'insécurité pour nos pays.
Le docteur sociologue Lamine Sandy Aïdara préconise la formation des militaires maliens. Selon lui, tôt ou tard, les forces étrangères vont quitter le Mali.
Franchement, moi, je me pose la question, qu'est-ce que ces forces-là font au nord? C'est vrai que ça, on entend qu'ils ont attrapé tel djihadiste à tel endroit. Moi, je dis, ça ne suffit pas. Je suis sceptique là-dessus, j'ai des appréhensions. Ça ne sert à rien. Il faut encore qu'on évolue en fonction du terrain. C'est ça, une guerre. Hein? On ne va pas se laisser surprendre. Et je crois que le Mali doit pouvoir s'organiser. Il faut faire des recrutements. Il faut former en fonction de cette guerre aux accents asymétriques.
Pendant les 4 premiers mois de 2017, on a enregistré un record en matière de sécurité. Une vingtaine d'attaques, près de 200 victimes sur le territoire national depuis le 1er janvier 2017. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Gabon, des partisans de la coalition de la Nouvelle République dirigée par l'opposant Jean Ping se sont rassemblés hier à Libreville devant l'ambassade de France. Profitant de la prise de fonction du nouveau président français Emmanuel Macron, des familles ont symboliquement déposé une bouteille remplie de sable pour attirer l'attention de M. Macron sur le risque d'implosion de la société gabonaise. Nathalie Zemo est la présidente du réseau Femmes, lève-toi. On l'écoute au micro d'Éric Manirakiza.
L'objectif, c'était de l'interpeller sur la situation du Gabon. C'est vrai que M. Hollande a été une vraie déception pour les Africains, avides de démocratie, parce qu'il a prolongé la France-Afrique. M. Macron arrive au pouvoir. Il a fait un certain nombre de déclarations, notamment sur l'élection de M. Ali Bongo, qu'il avait qualifiée de douteuse.
Est-ce que vous pensez que ça va faire bouger le nouveau président français?
Si on s'arrête face au déni de démocratie en se disant que les carottes sont cuites, on ne fera jamais évoluer notre pays dans le sens de la liberté et de la démocratie à laquelle le peuple gabonais aspire. Le litige électoral reste entier. Donc, n'étant pas pour la violence ou la guerre civile, nous n'avons pas d'autre alternative qu'une résistance pacifique. Nous ne lâchons rien, nous comptons continuer à faire entendre notre voix partout, au Gabon et à l'étranger, parce qu'il est temps que l'Afrique centrale évolue, amorce son développement et nos dirigeants des 50 dernières années nous ont démontré qu'il n'y aura jamais de développement dans une partie du continent tant qu'il n'y aura pas de démocratie.
Nathalie Zemo, une militante de l'opposition au Gabon. RCA, le gouvernement français a condamné ce lundi les récentes attaques meurtrières contre les casques bleus en Centrafrique en soulignant que ces actes pourraient constituer des crimes de guerre. Rappelons que 6 casques bleus, 4 Cambodgiens et 2 Marocains ont été récemment tués à Bangassou, localité située à environ 470 km à l'est de Bangui sur la frontière avec la RDC. Et toujours concernant la RCA, plusieurs femmes ont été abusées sexuellement par des militaires ougandais déployés dans l'est du pays entre 2009 et avril 2017, affirme un rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch publié ce lundi. Des militaires ougandais déployés dans le pays ont sexuellement exploité au moins 16 femmes et jeunes filles, souligne Human Rights Watch, qui dit avoir interrogé 13 femmes et 3 jeunes filles en 2017 dans la ville d'Obo, préfecture du Hombomou, dans le sud-est, où étaient basées les forces ougandaises. Forces spéciales américaines et soldats ougandais luttaient ensemble dans cette région jusqu'au mois dernier, date du début de leur retrait, contre la LRA, l'armée de résistance du seigneur de Joseph Kony. Cette rébellion venue d'Ouganda a tué, selon l'ONU, plus de 100 000 personnes et a enlevé plus de 60 000 enfants au Soudan du Sud, en RDC et en Centrafrique. Et puis en Afrique du Sud, des milliers de militants de l'opposition sont réunis ce lundi à Johannesburg près de la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la possibilité d'organiser un vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma au Parlement. Plusieurs partis d'opposition ont déposé cette motion de défiance contre le chef de l'État après le remaniement fin mars du gouvernement marqué par le limogeage très controversé de son respecté ministre des Finances Pravin Gordhan. Les adversaires de M. Zuma ont demandé le secret du vote au Parlement dans l'espoir de convaincre des députés du Congrès national africain, le parti au pouvoir qui détient la majorité absolue, de voter contre le président Zuma. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.